Natacha, bienvenue.
Merci.
Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton podcast qui va arriver, où tu mets en avant les femmes dans l'industrie musicale.
C'est ça, les femmes influentes et inspirantes de la musique.
Ok, comme toi-même, tu en es une en fait, c'est ça ?
À une moindre mesure, mais en tout cas, je suis plutôt le porte-voix de ces femmes-là en tout cas.
Ok. Du coup, j'avais une question un petit peu, parce qu'on va retracer d'abord un petit peu ton parcours, on parlera aussi un petit peu de musique. Et du coup, la première question, c'était, j'ai vu dans ton CV que tu avais commencé à travailler avec David Guetta. Mm-hmm. Donc, je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé, qu'est-ce que tu avais fait exactement avec lui. Ça m'intéresse de savoir un petit peu.
D'accord. Eh bien, écoute, au départ, assez au hasard, cette rencontre, parce qu'il n'y avait pas écrit que j'allais travailler avec David Guetta. C'était au départ avec une boîte de production audiovisuelle. Il s'avère que finalement, c'était effectivement la boîte de production, une activité en tout cas de David Guetta. Il y avait aussi son label au sein de cette même entreprise. Okay. Donc, je me suis retrouvée à travailler effectivement aux côtés de David Guetta. Et ce qui était plutôt une belle surprise d'ailleurs. Alors, ce n'est pas la grande star qu'on connaît. Enfin, ce n'était pas la grande star qu'on connaît aujourd'hui. Mais il avait déjà un nom, effectivement, dans les musiques électroniques. Ouais. Et je suis arrivée plutôt, justement, je pense à son tournant de carrière quand il a commencé après à faire des tubes internationaux.
Ok. Et donc, tu faisais quoi exactement avec lui ?
Alors, c'est ce qui était assez, avec le recul, je trouve assez avant-gardiste. Et là où il y a eu toujours un côté très business aussi chez lui et sûrement aussi auprès des personnes qui l'ont accompagné, c'est que j'ai commencé à monter des opérations avec des marques. Okay. Donc, c'était, maintenant, ça paraît assez naturel qu'un artiste
tout le monde fait ça.
s'associe avec des marques. Mais je pense qu'en tout cas, là, je te parle de 2005. Ouais. Je pense qu'en 2005, c'était peut-être pas aussi installé qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait Vueling, par exemple, qui venait d'ouvrir sa ligne Paris-Ibiza, notamment. Ouais. En tout cas, c'était une nouvelle compagnie aérienne. Et on avait monté une opération avec David Guetta, où on avait emmené, effectivement... des journalistes à Ibiza, faire la fameuse Fuck Me I'm Famous, qui était la soirée emblématique des Guetta. Et on avait passé comme ça 24 heures ensemble pour faire, en fait, en tout cas, l'annonce et le lancement de cette compagnie aérienne. Okay. Mais voilà, il y a eu plein d'autres opérations, notamment les opérations avec un opérateur téléphonique pour du contenu vidéo, parce qu'on commençait, alors ça fait vraiment très ancien, mais on commençait à pouvoir lire la vidéo sur le téléphone, exactement. Donc effectivement il y avait cette opération là où David aux quatre coins du monde nous donnait ses playlists et ses sons du moment, donc il y avait pas mal de choses en tout cas dans ce sens là et moi j'étais là pour les accompagner là-dessus, pour mettre en place ces opérations.
Ok, et du coup ce genre d'initiative, ce genre d'idée un peu avant-gardiste, c'est lui qui les avait directement, tu vois, parce que même le truc de Fuck Me I'm Famous, il y avait les t-shirts.
Ouais, enfin, je pense qu'il il a toujours eu un sens business et puis peut-être aussi via Cathy. Via Cathy. Il y a Jean-Charles Carré aussi, qui est son manager producteur depuis le début et voilà, jusqu'à présent, qui lui a un sens du business, je pense, très fort. Ouais. Et il a toujours été entouré, en tout cas, d'une équipe comme ça, très soudée autour de lui, qu'il a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est des gens qui sont brillants, en fait. Ouais, j'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir vivre ces moments-là avec eux. Et ça m'a beaucoup... ça m'a mis le pied à l'étrier.
Ouais, j'imagine. Ouais. C'était directement quand même dans le bain de quelque
exactement,
chose.
Exactement, ouais.
OK. Et du coup, ouais, après tout ça, j'ai vu que tu as travaillé chez Skyrock aussi.
Oui, c'est ça. Donc après, je suis allée travailler chez Skyrock, plus particulièrement sur la partie Skyblog.
Yes.
Alors, pareil, ça fait... voilà, les blogs, c'était à l'époque vraiment quelque chose d'hyper important.
Ouais. C'est
c'était avant l'arrivée de Facebook en France.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et c'était vraiment le média où, en tout cas, les jeunes étaient, clairement.
Ouais, c'est ça. Tout le monde mettait
tout le monde avait son blog. Je pense que, voilà, que tu dois avoir aussi ton Skyblog quelque part enfoui dans Google.
Ouais.
et donc, pareil, c'est une aventure hyper, hyper forte, puisque grosse ascension, grosse croissance... des Skyblogs au sein en tout cas de Skyrock et en France et j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir lancer les Skyblogs musique comme je venais avec un petit peu de bagage côté musique. Ils se sont dit tiens Natacha, on va la mettre sur les Skyblogs musique. Et ça a été forcément un gros succès parce qu'à l'époque les artistes, on va dire, créaient, moi il y avait des sites officiels d'artistes pour présenter les artistes, mais il n'y avait pas ce côté conversationnel,
il y avait un peu
ce qu'on appelle Web 2.0, comment ?
C'était un peu MySpace quand même.
MySpace est arrivé un peu après.
Ok, d'accord.
Skyblog d'abord, MySpace est arrivé après,
okay, ouais.
En faisant un peu de concurrence à Skyblog, mais finalement on n'était pas trop sur le même créneau.
C'était plus jeune.
En tout cas, les deux pouvaient vivre ensemble.
Ouais, c'est ça.
Mais Skyblog était avant MySpace. Okay, vraiment ouais, précurseur. Ouais, ouais. Et Skyblog Music, gros succès.
Ben ouais.
Gros succès.
Parce qu'il y a même encore le Skyblog de Jul.
Ouais.
Il y a encore avec des premiers sons.
Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui aujourd'hui sont connus, qui ont eu leur Skyblog à un moment donné, clairement. C'était aussi une manière, j'imagine, de repérer aussi des artistes. Je m'appelle Laurent Bonneau, directeur des programmes. Regarder aussi finalement les lectures, les vues, etc., ce qui se passait, les interactions qui
se passaient. Comme on fait maintenant avec Spotify.
Exactement, sur les Skyblog, pour se dire, tiens, il se passe peut-être un truc avec cet artiste.
Okay.
Donc, c'était un peu le premier réseau social qu'on a connu en France, en fait.
Oui, si ça se trouve, il y a même certains artistes qu'on connaît maintenant qui ont été signés comme ça, peut-être.
Ah, mais très certainement, oui, bien sûr.
OK. Et du coup, concrètement, toi, quand tu as démarré la Skyrock, ça a été quoi, genre, la première chose que tu as fait, tu vois?
Moi, clairement, ça a été vraiment la mise en place, le lancement des Skyblog Music.
Vraiment,
très rapidement. Cette idée-là est arrivée.
Ouais.
Et du coup, j'étais le profil pour le faire. Donc, je me suis vraiment mise sur ce sujet-là. Après, il y avait aussi une casquette un peu plus cinéma, on va dire entertainment, de manière générale. Ouais. On était un petit duo avec Johan là-dessus. Mais c'était déjà deux gros sujets, musique et cinéma, parce que forcément, quand on parle des jeunes, c'était très 15-25. C'est des secteurs qui sont hyper forts. Donc, beaucoup de contenu à créer. Et donc, nous, on s'occupait aussi forcément de la commercialisation de cette plateforme, de ces Skyblog. Et donc, on faisait des opérations avec des marques aussi. Quoi.
OK, d'accord. Et du coup, c'est toi qui as lancé le Skyblog de Jams, tout ça?
Et oui, c'était l'époque de Dans ma bulle. Okay. Donc, excellent. Il y a vraiment plein de super artistes. Ouais. Donc, lancer le Skyblog de Jams, de Booba, de plein d'artistes qui étaient... on va dire qu'il était en tout cas au top à ce moment-là.
Ouais.
C'était hyper chouette.
T'en as rencontré un peu des artistes par ce biais-là
Forcément, on les rencontre un peu. Alors, on est surtout, nos interlocuteurs, c'est surtout les maisons de disques, les labels avec lesquels on travaille. Mais il y a des ponts qui se font, bien évidemment. Je me rappelle aussi, petite anecdote, d'avoir vu Chaim, c'était sa première interview.
Okay.
Et je ne sais pas pourquoi la personne qui faisait les interviews à l'époque chez Skyrock n'était pas là. Et j'ai dû mener l'interview. Alors, je ne suis pas journaliste.
Okay.
Donc, je lui disais, t'inquiète pas. Moi, c'est ma première fois.
Ouais, et toi aussi.
Et toi aussi.
On est dans le même bateau.
On est dans le même bateau. On va y arriver.
Je peux trouver ça, ça veut dire.
Et après, comment?
Je peux trouver ça, ça veut dire.
C'est-à-dire?
Sur YouTube ou quoi?
Je ne sais pas. Non, je pense que c'était publié que sur Skyrock.
Je
ne sais pas.
Je te dirai
mais
si j'ai trouvé.
C'était assez sympa. Et par exemple, Chaim était vraiment inconnu.
Ouais.
À l'arrivée, Et puis après, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Donc une artiste connue et reconnue. Mais
avec Camaro, c'est ça?
C'est ça, exactement. C'est son producteur. Mais voilà, une petite anecdote. Donc oui, on rencontrait évidemment des artistes. Et puis dès qu'on pouvait, même si on était sur la partie internet, blog, on allait squatter quand même la radio, les Planètes Rap, pour voir un peu ce qui se passait. Parce que c'était là qu'il y avait l'ambiance.
Ouais, c'est clair. J'ai jamais encore eu la chance d'y aller, tu vois. J'espère y aller.
C'est juste
quatre
à côté d'ici, hein, tu sais.
Je sais où c'est, en plus.
Ouais, les bureaux sont à côté.
OK. Et du coup, j'ai vu que tu avais travaillé aussi pour une autre radio, c'est ça, FG?
Oui, avant Skyrock, il y a eu Radio FG. Exactement, il y a eu Radio FG. Donc, c'était vraiment mon premier job pour le coup au Radio FG. Et là, du coup, effectivement, plus dans le milieu électro, donc d'où la suite avec David Guetta, qui était assez naturel.
Okay.
Et là, effectivement, j'étais aussi j'étais ce qu'on appelait le chef de publicité, donc principalement sur la partie musique. Donc, c'était tout ce qui était promotion finalement des sorties des artistes. Donc, j'étais très, très connectée en relation avec les maisons de disques, labels, etc., pour savoir quelles étaient les prochaines sorties et leur proposer, effectivement, de communiquer sur la radio.
Okay.
Et comme c'est aussi une radio à taille humaine, ce qui était assez sympa, c'est qu'on avait pas mal de casquettes.
Ouais.
Et j'avais la chance de pouvoir aussi participer au comité d'écoute, les fameux comités d'écoute dans la radio pour sélectionner les titres entrants. C'était un petit peu mon petit moment bonheur à moi d'être un peu dans le secret des dieux,
comment ça
se passe. Non, en plus, j'étais très jeune et pas du tout expérimentée sur le sujet. Mais en tout cas, je pouvais tout à fait prendre la parole. Mais j'étais vraiment, je pense, en observation sur ce qui se passait et comment ça fonctionnait, quoi.
Ok. Et du coup, tu étais chargé de la publicité, tout ça, c'est ça ?
Exactement. C'était vraiment encore un rôle au sein, finalement, de la régie, ce qu'on appelle toutes les radios ont une régie publicitaire, ou tous les médias, d'ailleurs. Mmh. Et c'était effectivement la commercialisation des espaces pubs de la radio. Okay. Et on avait aussi un certain nombre d'événements. J'ai monté un événement pour... C'était la technoparade, le fête de musique, il y avait des événements comme ça où Radio FG était très présent ou même organisait. Donc là, je participais aussi à la création du line-up, quels artistes on allait faire venir. On faisait pas mal de choses en fait. C'était tout terrain.
Du coup, tu es passé donc de cette radio après.
Ah, Skyrock, exactement. Skyrock, j'ai voulu aller sur la partie digitale.
Ouais.
Parce que je voyais un peu aussi les Internet finalement un peu arriver. Je me dis, tiens, c'est peut-être ça le média de demain et j'avais très envie de voir ça de plus près et il y a eu une opportunité, effectivement, c'est comme ça que je l'ai saisi.
Ok, d'accord. Et après, de là, tu as créé...
Alors, pas tout de suite après. J'ai travaillé 5 ans dans un groupe qui éditait plusieurs sites internet, qui s'appelle Aventers.
Ok.
Donc là, des sites e-commerce, B2B, plusieurs sites. Mais là, j'ai monté la régie pub en France et en Europe.
Ok.
Donc, j'ai eu ce passage-là... on va dire, en entreprise, avant cette fois-ci, effectivement, de sauter le pas et de créer ma start-up, ma première start-up.
Ok, d'accord. Et donc, ça
s'appelait... Et je suis revenue, du coup, sur la musique. Je suis revenue sur la musique. J'ai marié le meilleur des deux mondes pour moi, Internet et la musique.
Ouais.
Et donc, j'ai créé Soon Vibes.
Ouais, Soon Vibes.
Qui est une plateforme de découverte de talents dans la musique, que j'ai créée et dirigée pendant 8 ans.
Ok.
Donc, une belle aventure,
Et du coup, là, c'était un petit peu... toi qui découvrais des artistes et qui les mettais en avant, en fait.
L'idée, c'était qu'on voyait que de plus en plus d'autoproduction, d'artistes finalement, parce qu'il y avait une démocratisation aussi de la production de musique, ça coûtait moins cher, plus de logiciels, etc. Donc beaucoup finalement d'artistes un peu autoproduits.
Et qui émergeaient du coup.
Qui émergeaient, donc l'idée c'était de se dire comment parmi tous ces milliers, tous ces millions d'artistes, on arrive à repérer ceux qui ont plus de potentiel et qu'il faut signer le plus rapidement possible. Parce que de l'autre côté, on va dire B2B, label, maison de disques, il faut savoir repérer aussi ces artistes-là très tôt. Et donc ça, ça se fait à partir de données, d'indicateurs qui vont te permettre de voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe et que cet artiste-là a un potentiel. En plus, toujours, bien sûr, d'une oreille et d'une direction artistique, mais c'est des aides, en tout cas, à la prise de décision. Et ça permet aussi de faire un tri... un premier tri, on va dire, dans le volume, dans la masse. Et nous, on est parti vraiment de cette idée-là. Donc, effectivement, les artistes déposaient leur musique sur la plateforme.
Ouais.
Nous, on avait une communauté d'artistes, de fans de musique qui étaient scorés, qui étaient identifiés par profil, qui venaient écouter les musiques, mais en blind. Donc, c'était un peu le The Voice avant The Voice.
Ouais.
De manière à ce qu'il n'y ait pas de... On ne soit pas influencé par la personne.
Il y avait un système de upvote.
Il y avait un système de rating, il y avait un système de commentaires. On en faisait de l'analyse de commentaires, etc. Et tout ça nous permettait de voir un peu les artistes qui se détachaient des autres et qui pouvaient potentiellement avoir plus, en tout cas, de potentiel de réussite. Et surtout, on les matchait après avec les labels selon leur affinité artistique.
Ok, d'accord. Du coup,
c'est une sorte d'agent digital.
Ouais, voilà, c'est ça, un peu
dans la musique.
Talent de scooter.
Exactement, ça, c'est ça, ouais, exactement.
Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un artiste que tu as pu faire émerger peut-être,
mais
qui est passé par chez vous?
Il y en a plein. Après, il n'y a pas encore le David Guetta, ou en tout cas, je ne l'ai pas encore vu, dans le sens où il n'y a pas encore d'artistes qui ont une carrière internationale. Mais je suis à peu près sûre que ça arrivera, que dans tous ceux que j'ai rencontrés, il y en aura, parce qu'il y a vraiment énormément de talent.
Ouais.
Alors, il y en a un, il n'y a pas longtemps, c'était pas The Voice là, mais The Voice pendant le confinement, donc le dernier, qui était du coup sélectionné et qui a passé quelques tours, et c'était assez rigolo de le voir, parce que je ne m'y attendais pas.
Donc, il s'appelle comment ?
Il s'appelle Ota.
Ok,
Ota Music. C'est
beau, ouais.
Bon, déjà, je vais y aller.
De le voir là, mais en fait, des artistes effectivement qui tournent aujourd'hui et qui ont des carrières, il y en a. Il y en a pas mal.
Et du coup, en fait, cette aventure-là, elle est complètement finie ou ça continue
en fait,
malgré toi qui sois plus...
Cette boîte, je l'ai vendue à une autre société il y a un an et demi, qui s'appelle Groover. Il y a un an et demi, deux ans, qui s'appelle Groover.
Ouais.
Donc, eux, ils ont racheté Soon Vibes, ils l'ont intégré à leur propre plateforme.
Ouais,
et eux, ils continuent l'aventure.
Voilà. Bien joué.
Les artistes, maintenant, sont chez Groover.
Ouais, c'est connu, Groover, je connais. Ouais. Ok. D'accord. Et bon, du coup, on va s'intéresser un petit peu à ce pourquoi on est là aujourd'hui, un petit peu plus à ton podcast qui débarque, c'est le combien
le 11 mai.
11 mai, ok. 11 mai, donc tu as déjà enregistré plusieurs épisodes, tout ça.
Bien évidemment.
Du coup, ma première question, c'était savoir comment tu avais eu justement cette idée-là. Et mine de rien, je me rends compte que sur plein de trucs, en fait, tu étais vachement avant-gardiste, même si ce n'était pas toi directement, mais quand même avec David Guetta, tu étais dans un truc avant-gardiste. Avec les Skyblock, tu étais dans un truc avant-gardiste. Avec Soon, tu vois, c'était quand même avant-gardiste aussi, ouais. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. C'est super intéressant, en tout cas. Et donc, ouais, comment ça t'est venu, du coup, l'idée
Alors, le podcast, non, il y a plusieurs raisons.
Les voix qui portent.
Ouais, le podcast, les voix qui portent. Il y a plusieurs, vraiment, facteurs. Il y a déjà, une envie voilà, d'accompagner aussi ce mouvement vers plus d'égalité homme-femme, ouais. Qui forcément, bah, comme je pense toute femme, nous touche de près ou de loin, mais en tout cas, on est forcément concernés. Mouvement qui s'est accéléré avec MeToo et qui a fait émerger pas mal de super initiatives, dont une qui s'appelle MeWem, okay. Qui est un programme européen de mentorat.
D'accord.
Pour des jeunes femmes qui veulent entreprendre dans la musique.
Okay.
Et moi, ça fait 2 ans que, on va dire, j'officie, en tout cas, j'ai la chance d'être mentor au sein de ce programme-là. Et voilà, et c'est hyper riche. Et c'est vrai que cette idée-là a mûri et s'est vraiment déclenchée au contact à la fois des mentors et des mentorés.
Ouais.
Très clairement. Le côté, je pense que le rôle modèle, en tout cas le fait d'avoir des rôles modèles féminins, c'est en fait c'est clé. Mmh. D'avoir des représentations bien féminines, qui soient leaders, qui soient chefs d'entreprise, qui osent entreprendre, créer leur start-up, autres, en tout cas, voilà. Plus en fait elles sont visibles, plus effectivement pour d'autres personnes qui se poseraient les questions, bah, ça donne envie. Et puis surtout on se dit, ah bah c'est possible, elle l'a fait. Voilà, elle n'a pas forcément plus de capacité, de moyens que moi, mais effectivement, on peut y arriver. Et je pense que c'est hyper important. Alors là, je parle des femmes, mais c'est pareil pour on va dire, toutes les minorités ou pour tout profil. Je pense que le côté représentation et avoir des personnes auprès desquelles tu peux t'identifier, c'est hyper fort et c'est hyper important.
Mais justement, toi, est-ce que tu as eu des rôles modèles comme ça?
Alors, moi,
c'est pas facile d'entreprendre, de faire une start-up et tout quand on est une femme.
Ouais, bah en fait, j'ai eu la chance, alors pas forcément des rôles modèles féminins.
D'accord.
Mais par contre, oui, j'ai eu des mentors. J'ai eu de la chance pendant tout mon parcours d'avoir des personnes qui m'ont clairement inspirée. Je me dis, bon, bah, ouais, je veux être comme lui ou pas être comme lui, mais. Je veux aussi, comme lui l'a fait, aller jusqu'au bout de mes convictions, de mes projets, de mes rêves. Et j'ai là eu la chance de rencontrer ces personnes-là, ou qui avaient tout simplement du talent, et qui m'ont inspirée, et qui ont aussi cru en moi, et m'ont donné aussi voilà, ma chance. Et je trouve que c'est hyper important. Donc j'ai croisé effectivement tout au long de mon parcours des personnes qui m'ont inspirée. Et après, c'est vrai que je vais chercher mes inspirations aussi dans des lectures. Je lis beaucoup de biographies.
Ouais.
Ça peut être aussi bien de forcément d'entrepreneurs, parce que voilà, j'aime beaucoup ça. Mais aussi, ça peut être d'artistes. Ça peut être dans des univers même très, très différents du mien. Mais ouais, j'aime beaucoup...
C'est souvent très motivant. Quand même.
Voilà, j'aime beaucoup voilà, apprendre aussi des parcours des autres. Parce
puis
que
souvent, ça permet de se rendre compte, je trouve, du parcours de la personne et de voir en fait qu'à la base, elle n'avait pas forcément toutes les cartes en main et qu'elle a eu aussi
exactement.
Pas mal d'échecs.
C'est pas linéaire. Voilà, c'est pas ça. Linéaire. Il n'y a pas que la fin et la belle success story. Généralement, derrière chaque success story, bah, la personne, elle est tombée plusieurs fois.
Déjà,
et, sur, et son chemin, il a été
très sinueux.
Ouais. Exactement. Donc, ça permet un peu de relativiser aussi ce qu'on peut vivre. Et puis aussi les obstacles qu'on peut connaître. Et non, on en a besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu à un tournant où c'est un peu plus mis en lumière. Il y a un peu plus d'espace de parole, d'espace de visibilité pour tout ça. Et ce podcast, ça va juste enfoncer le clou, en fait.
Ouais.
Je ne suis pas la première à le faire. Donc là, ce n'est pas avant-gardiste. Mais c'est plus si je peux en rajouter une couche, et ben je le fais. Voilà, c'est ma contribution.
Oui, ouais, après, bon. Même si ce n'est pas oui, le truc le plus avant-gardiste, mais quand même, en France, le podcast n'est pas encore si développé que ça non plus. Il y a des gens, on leur dit podcast, il y a certaines personnes, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, il y a quand même un côté un peu avant-gardiste aussi, quand même. Ça va, c'est pas non plus, tu ne te lances pas sur YouTube, tu vois, maintenant, au bout de plusieurs années. Et du coup, en termes de, comment dire, pour contacter les personnes qui ont participé à ton podcast,
ouais.
Est-ce que ça a été une étape difficile?
Pas vraiment.
Okay.
Après, ça dépend qui est-ce qu'on veut contacter. Mais
ouais.
Clairement, les personnes sont plutôt intéressées, en fait. Et puis comprennent la démarche. Donc ils se disent, bon, bah, moi aussi, si je peux aider finalement.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, les femmes que j'ai rencontrées, elles ont conscience aussi quelque part de l'impact qu'elles peuvent avoir et que leur parole est importante. Et que bah, cette heure qu'elles vont consacrer effectivement à ce podcast-là, à cette interview, bah, peut servir. Et je pense qu'il y a un côté où elles ont envie d'en faire un peu don d'une certaine façon et que c'est important aussi pour elles. Donc, la plupart du temps, non, pas forcément de difficultés. Après, ça va être plus, effectivement, trouver le moment dans leur emploi du temps voilà, surchargé.
Ouais.
Ça, c'est plus un défi, effectivement, de trouver le moment quand même. Mais l'intention, en tout cas, y est et l'envie y est, quoi. Elles ont vraiment envie d'y participer et ça, c'est plutôt cool.
OK. Et en termes de format, c'est des formats de combien de minutes ?
C'est entre 45 minutes et une heure. Je ne me mets pas de pression par rapport à ça. Et après, c'est découpé en trois parties. Donc, il y a trois chapitres. Donc, tu peux aller piquer un chapitre si tu n'as que 20 minutes pendant ton trajet. C'est possible. Voilà.
OK. Et autre question aussi, c'est concernant les profils. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de femmes en lien avec le milieu quand même du hip-hop, tout ça. Est-ce que il y aura vraiment tout type de profils dans la musique, même justement des gens de l'univers plutôt, même EDM.
Ouais,
tout ça,
bah bien sûr. Non, alors oui, alors ça s'est fait un peu, ou alors c'est biaisé, c'est de ma faute. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal. Les premiers, c'est pas mal effectivement des femmes plutôt dans l'univers, on va dire hip-hop, musique urbaine.
Ouais.
Mais non, bien sûr, tous les profils et justement c'est la richesse. J'espère avoir des femmes de la musique classique, hyper intéressant,
ouais,
d'avoir leur position et leur point de vue.
Ouais.
Donc j'aimerais bien sûr balayer tous les univers musicaux, comme j'aime balayer finalement toutes les professions et tous les acteurs, les actrices de cette industrie, que ce soit bien sûr les artistes auxquels on pense tout de suite, mais celles qui travaillent en label, les managers, les techniciennes, hyper intéressant.
Ouais,
c'est quoi aujourd'hui d'être technicienne quand tu es sur un festival et comment ça se passe effectivement même vis-à-vis, j'imagine, d'un cercle beaucoup plus masculin, parce que c'est des métiers forcément auxquels on dit bah, c'est forcément un homme, mais non, pas forcément. Mais j'aimerais effectivement avoir le point de vue et avoir les histoires de chacune et que ce soit le plus divers possible.
Oui, parce que je trouve que ce soit une personne, comme tu as dit, technicienne sur un festival ou que ce soit même une manageuse d'un très, très grand artiste, je trouve les deux sont importants à connaître
bien sûr,
à savoir.
Bien
et puis ça peut, dans les deux cas, créer des vocations aussi différentes.
Exactement.
Donc, c'est très, très intéressant. Et du coup, là, tu as prévu déjà combien d'épisodes qui sont déjà enregistrés ?
Alors, en fait, j'en ai déjà enregistré 15.
15, ah oui, quand même.
Ouais, j'en ai déjà enregistré 15, parce que j'ai commencé un petit bout de temps. Et puis finalement, ça s'est bien... un petit bout de temps, il y a un an, et ça s'est bien déroulé. Pour le moment, ce sera 2 épisodes par mois.
Okay.
Mais pour le lancement, il y en aura 5.
Ok,
directement disponible.
Okay.
Pour avoir aussi un petit panel tout de suite de femmes inspirantes. Et puis après, selon en tout cas comment ça se déroule, peut-être qu'il y en aura davantage et que la fréquence sera plus intense. Mais pour le moment, ce sera 2 par mois, de manière à laisser un peu aussi de place à chaque épisode.
Ok. Et tu travailles comment au niveau de la préparation ? Est-ce que tu as déjà des noms en avance que tu sais que tu vas contacter forcément ?
J'en ai déjà. Mais en plus, à chaque fois, les femmes que j'interview m'en donnent.
Ah oui,
tu devrais interviewer un tel.
Ouais,
donc finalement, je me retrouve
avec... Même moi, j'ai déjà quelques noms en tête.
Finalement, je me retrouve avec une liste de femmes interviewées qui est énorme.
Et après, il faut lui le temps.
Et en plus, j'ai très envie de les interviewer. Donc c'est un vrai dilemme. Donc non, je ne peux pas tous les faire effectivement en même temps, mais je le fais à fur et à mesure, et à fur et à mesure, comme je disais, aussi des disponibilités de chacune. Mais oui, j'ai plein d'idées, évidemment.
Mais d'ailleurs, rien que moi, à mon niveau, quoi, on va dire dans le domaine urbain, quoi, c'est vrai que je croise énormément de femmes, que ce soit des RP, même parfois des managers, tout ça... Et au début, ça ne m'a pas surpris, mais des fois, quand j'entends des gens qui disent que dans ce milieu-là, c'est fermé aux femmes ou quoi, parce que c'est le rap, tout ça, en fait, je trouve que c'est faux. Parce que moi, j'en croise tous les jours des femmes, tu vois, et je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Mais ce qui est bien, c'est que toi, ça peut permettre de le faire savoir, justement, tu vois.
Exactement.
C'est pas assez su, tu vois.
Mm-mm.
Donc, je trouve ça super. Et puis, on va parler un petit peu de musique, du coup.
Allons-y.
Tu m'as envoyé quelques petits sons.
Quelques sons. Enfin, tu me les rappelles, parce que je ne sais
aimes,
plus
ouais.
ce que je t'ai envoyé.
Okay, bon, moi,
tu les as en tête
ouais, c'est bon. Donc, tu m'avais envoyé un son de... Par contre, je n'ai pas tous les titres, surtout le premier, Public Enemy.
Ah, ça doit être harder, ouais. Harder Than You Think, non ?
Ouais,
un truc comme ça.
Harder Than You Think, ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ouais, c'était pour parler un petit peu de ce genre de son. Déjà, un truc que j'ai remarqué, c'est dans tous les sons que tu m'as envoyés, il y a quand même un côté très motivationnel.
Ouais.
Dans pratiquement tous, quoi.
Je crois que c'est ma vie qui est comme ça.
Ouais, mais c'est
mais parce que je trouve que la musique aussi sert à ça. Moi, la musique, c'est un vrai booster dans ma vie. J'écoute de la musique, mais je crois que dès que je sors du bureau, j'ai de la musique.
Ouais.
Dans tous mes déplacements, il y a de la musique. Chez moi, il y a souvent de la musique. Je travaille de temps en temps avec la musique, pas tout le temps, mais selon ce que je fais.
Ouais.
Mais je trouve que c'est un moteur d'énergie, de force. Donc oui, non, c'est pas si étonnant que ça que la musique que je t'ai envoyée
aille
dans ce sens-là.
Vraiment ouais. Bien, tu vois, parce que moi aussi, ce genre de musique, déjà, j'en écoute énormément et j'écoute pas forcément que du rap non plus. Et j'écoute aussi beaucoup de trucs assez plutôt énergisants, un peu des bonnes vibes, tu vois,
ouais.
Les trucs un peu trop sombres ou quoi, j'écoute pas beaucoup en tout cas. Et du coup, ouais, le son là de Public Enemy, déjà, il est quand même assez mythique, je trouve.
Oui,
même
oui,
l'instru,
oui, bien sûr,
tu vois, ça parle quand même à tout le monde. Il y a une phrase dedans que j'adore, c'est un moment, il dit « If you don't fight for something, you will fall for anything ».
Voilà.
Franchement, je trouve celle-là. Rien que ça. Celle-là, tu vois, je trouve elle est
incroyable. Tu peux la ressortir, la mettre en quote Instagram, ça passe. Toujours d'actualité. Exactement. Toujours d'actualité. Ah oui, bah oui, mais après, Public Enemy, c'est parce que c'est aussi un groupe qui est fort, qui est engagé et qui est hyper emblématique. Donc, ouais, ça fait partie des premiers groupes que j'ai écoutés en hip-hop. En fait, je pense que ma culture musicale a été d'abord hip-hop, clairement. Et après, je me suis ouvert à l'électro, notamment avec David.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, j'écoutais que du hip-hop.
Ouais.
Je sais qui, David. aujourd'hui, j'ai quand même des goûts beaucoup plus éclectiques. J'ai découvert d'autres univers musicaux, mais c'est vrai qu'effectivement, j'écoutais beaucoup de hip-hop plus jeune. J'ai commencé par ça. Et Public Enemy, ça faisait partie des groupes, effectivement, un peu emblématiques.
Okay.
Voilà, incontournable.
Ouais, ça c'est clair. Ouais, toujours maintenant, ils font partie pour toujours, de toute façon, du paysage hip-hop. Ils sont gravés dans la roche. Et après, tu m'avais envoyé, attends que je me souvienne. Déjà, tu m'as envoyé le son de Beyoncé.
Oui, on parle du podcast Les Voix qui portent.
Ouais.
Je suis obligée de parler de Beyoncé.
Ouais.
Donc voilà,
coup, ça,
je pense que là, en Égérie, ambassadrice des femmes, du féminisme, on ne peut pas faire mieux. Donc ouais, c'est une personne, je pense que c'est une icône qui est hyper importante dans la musique et au-delà de la musique. Et donc ouais, non, Beyoncé, bien sûr.
T'as j'étais obligée de te la citer. Documentaire.
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai
vu
mille fois sa prestation à Coachella.
Okay.
J'aurais aimé être là. non, bah, Beyoncé, bien sûr. Beyoncé. Comme je t'ai cité, Diam.
C'est fort.
Voilà ce que j'allais dire. Du coup,
qui est pareil.
Surtout le son que tu m'as envoyé, là, Big Up.
Et oui, et je t'ai envoyé celui-là parce que pour moi, c'est une hymne pour toutes les femmes.
Grave.
Et je pense que. Pareil, cette chanson, elle te met la patate.
Ouais, puis
elle parle à tout le monde, mais elle parle à toutes.
Voilà.
Et elle est encore hyper d'actualité.
Exactement.
Et ouais, j'adore. C'est une chanson que je partage avec mes amis d'enfance.
Okay.
Big Up de Diams.
Ok.
Voilà.
En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, pour un son de Diams, c'est pas forcément le plus connu. En plus de ça, il est pas bresson, tu vois. Il y a beaucoup de sons qui sont assez dark chez Mélanie. Tu
alors
vois
celui-là non.
Donc celui-là non.
Ah là, il est happy celui-là.
En plus, il est motivant.
Exactement.
Et puis quand on le compare justement en ayant préparé tout ça avec celui de Beyoncé, tu vois, on voit vraiment le côté Kenry avec elle qui est plus dans entertainment avec la grosse instru, avec le refrain entêtant, tout ça. Et elle où au final c'est le même message mais c'est beaucoup plus profond.
Ouais.
Elle parle à plus de personnes finalement, même si les deux parlent aux femmes, mais elle touche des points assez précis, je trouve, qui fonctionnent très bien. Donc ouais, je trouvais ça super intéressant.
Ouais, t'as une mise en parallèle entre voilà, Beyoncé et notre Diams national.
Ouais, du coup, c'est mieux Diams. Ah, c'est pas pareil, c'est deux trucs. Quoi. Après, c'est vrai que le son de Beyoncé, tu peux l'écouter
En soirée, à n'importe quel moment.
Ils passent très souvent et tout. C'est pas la même chose. Après, ça j'adore parce que moi, même moi, je le cite très souvent. C'est Lose Yourself de Eminem.
Cette musique, c'est l'impression d'aller sur un.
Ouais, sur un ring.
Un ring, j'allais dire ça. Ouais, c'était vraiment. Ouais, bah c'est vraiment ça. Des fois, je me le mets avant un rendez-vous important.
Ouais. Ok.
Je l'écoute. Et quand je dois rentrer en salle pour un rendez-vous important, hop, c'est bon, ça m'a mis la pêche.
Même rien que l'intro, tu vois.
Rien que l'instru, en fait, juste l'instru.
C'est clair.
L'instru, déjà, t'es dedans, quoi.
Ouais, c'est vraiment un son très, très fort, très, très motivant. Et du coup, il y avait vraiment une ligne directrice.
C'est vrai, j'étais trop dans mon podcast.
Ça montre que toi-même, tu es comme ça, tu vois.
Clairement, c'est comme ça que j'écoute la musique. Alors après, je peux avoir d'autres moments et d'autres façons d'écouter la musique, mais principalement, dans ma journée, effectivement, c'est en mode moteur, faut y aller, quoi.
Ouais. Après, il y avait quelques sons dédiés de Préto.
Oui, du coup, plus cool. Là, on est redescendu, plus cool. On est plus dans l'émotion.
Plus dans les lyrics. Bon, James, on y était aussi. Exactement. Mais c'est plus dans l'écriture,
aussi des beaux textes,
la poésie,
la sensibilité. Il touche à des sujets importants et qui sont des sujets qui amènent de l'empathie. Il y a énormément de sensibilité. J'aime beaucoup.
Mais on voit que ça glisse ça transpire de lui presque, tu vois.
Exactement, c'est hyper sincère. Voilà. C'est...
Que, par exemple, Lose Yourself, c'est très motivant, tout ça, mais bon, c'est la BO d'un film, c'est un personnage, même si c'est lui.
Bien sûr.
C'est pas la même chose.
Non.
C'est le côté encore français où vraiment il y a la plume.
Je pense qu'on a un truc, comme ça, où on met beaucoup de nous.
Ouais, c'est vrai.
Mais voilà.
C'est le côté.
Des poètes.
Ouais, c'est ça. Et du coup, parmi les sons, tu m'avais donc conseillé Val de Larmes, que j'ai découvert, que je n'avais jamais écouté. Vraiment très bien.
Que je trouve très juste.
Ouais, voilà. Allez écouter aussi, très très bien. Je mettrai peut-être un petit extrait.
J'avais connu la cage, j'avais vu le problème.
Très court pour ne pas me faire striker. je voulais aussi revenir sur un petit truc avant de terminer. C'était que j'ai vu que tu faisais beaucoup de running.
Oui, tout à fait.
Et je voulais justement parler un petit peu aussi de ce côté-là, parce que tu fais même des marathons, tout ça.
Trail, j'ai fait mon premier trail il y a pas longtemps.
Trail aussi, ok. Voilà, du coup, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur
On est un peu dans la même démarche.
Voilà, c'est pour ça, en fait.
ça me permet un peu d'exorciser et de vider mon suppléant d'énergie, si je peux en avoir, mon supplément d'énergie, voilà. C'est ma manière à moi un peu d'évacuer après une journée de travail d'être un peu dans une sorte de bulle, clairement. Bon, j'ai beaucoup d'énergie, comme tu l'as, je pense, certainement deviné. Donc, ça me permet en tout cas d'y faire face ou en tout cas de la canaliser.
Ouais.
Et puis j'aime ce côté effectivement challenge, défi, repousser les limites. Du coup, ça m'offre énormément de plaisir.
Ouais.
Quand j'ai fait mon premier marathon, forcément, c'est quelque chose qui est assez dingue en fait.
Parce qu'avant
de le faire, on n'imagine pas qu'on peut le faire. En fait.
Ouais, c'est ça.
Et ça qui est beau, hein. Parce que quand on s'entraîne pour un marathon, on s'entraîne jamais sur la distance. Donc en fait, il y a une part d'inconnu. Et ça, je trouve ça incroyable parce que finalement, on y arrive. Et c'est là qu'on se rend compte que que la mentalité, le mental peut nous faire de grandes choses, en fait. Et donc, pour moi, ça me donne une force supplémentaire, en fait, de courir.
Et c'est quelque chose que tu as toujours fait ou
non.
Tu t'es mis...
En fait, je faisais du tennis.
OK.
J'adore le tennis, sauf qu'à un moment donné, quand on travaille pas mal, c'est un peu plus compliqué de caler des heures de tennis parce qu'il faut être deux, parce qu'il faut réserver un terrain. Mmh. Ouais, et un peu plus de logistique, on va dire. Donc, quand je peux, je joue au tennis parce que j'adore ça. Mais effectivement, courir, je peux aller courir à 22h le soir, je mets une paire de baskets et c'est parti, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ce que je fais, d'ailleurs. C'est jamais très, très programmé à l'avance, à part quand il y a des compétitions. Mais, j'aime beaucoup aussi le côté liberté.
Ouais.
Parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu as une paire de baskets, c'est bon, tu es prêt, tu peux aller courir.
Ouais, c'est vrai.
Et ce côté, je ne dépends de personne, je cours quand je veux... et bien ce côté, voilà, cette liberté, en tout cas, ou cette sensation de liberté que ça procure est très forte.
Ouais, c'est vrai que même c'est quelque chose en déplacement ou en vacances, voilà, tu as juste ta paire de baskets.
Exactement, n'importe où.
Pas de contraintes.
Tu peux toujours courir.
Ouais, ça, c'est vrai, c'est vraiment pas mal. Et ça me fait penser aussi à, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler d'un coureur.
Ouais.
Je sais pas du tout son nom, mais je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, pour s'entraîner justement, lui, il faisait pas des entraînements intensifs ou des choses comme ça, tu vois. En fait, il faisait des entraînements genre pendant, je crois, c'était 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine de 8 heures en fait. Il courait à rythme régulier sur même en salle et tout sur des tapis tout ça. Et
apparemment, il fait des entraînements de 8 heures.
Ouais. Mais tu vois, genre, mais en vraiment très, très bas, très, rythme très bas. Tu vois.
Ah, d'accord, ok. Tu vois, okay. Vraiment le foncier, quoi.
Ouais, voilà.
D'accord.
Et apparemment, j'ai pas son nom, faudra que je regarde, j'ai entendu passer dans un podcast, tu vois.
Bah, là, en ce moment, je fais plutôt des préparations au trail, donc c'est plutôt l'inverse. C'est des séances très intenses.
Et très courtes.
Ouais. Ouais. C'est ce qu'on appelle du fractionné. Donc là, tu es sur un stade et tu as des séances de une minute de repos, une minute de repos, une minute de repos, avec plusieurs séries. Donc c'est des choses plutôt qui font monter un peu en cardio. Qui, je pense, développe aussi un peu le côté musculaire.
Ouais.
Et le week-end, c'est généralement plus effectivement du fond. Ça, c'est plus l'entraînement, on va dire, typique trail. Après, peut-être que pour des très, très longues distances, parce qu'il peut y avoir des 100 km, etc.
Ouais.
Peut-être qu'effectivement, cette technique-là...
je ne sais pas pourquoi ils s'entraînaient. C'était sur un podcast de musculation. Ils ont sorti ça parce que le gars était tombé sur un article sur ça, tu vois. Mais,
j'ai pas souvenir. Je regarderai, je causerai la technique. Par contre, je n'ai pas 8 heures à consacrer.
Ouais, c'est ça, le truc. Il faut faire que ça, quoi.
C'est pas possible. Clairement pas.
Ouais, en plus, plusieurs fois par semaine, c'est très, très compliqué.
Ouais, non.
Bon, en tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi. Ravi d'avoir eu cet échange avec toi, d'avoir présenté le podcast Les Voix qui portent.
Du coup, n'hésitez pas à aller checker. Du coup, les 5 premiers épisodes sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Hein.
Exactement.
Deezer.
Partout. On pourra écouter les épisodes du podcast Les Voix qui portent.
Ok, merci beaucoup. Et puis, tu as aussi un compte Instagram, Les Voix qui portent.
Exactement, on peut suivre aussi sur Instagram.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. C'était Tyler et Natacha. Ciao.
Salut.